Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Les grandes tendances démographiques en Europe. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet. Oui, effectivement, à propos de la publication d'un rapport de l'ONU la semaine dernière, nous sommes à peu près 7 milliards 5 d'habitants sur la planète, environ 10 milliards en 2050. La population mondiale aura quintuplé depuis la guerre, la Seconde Guerre mondiale. 83 millions de personnes de plus chaque année sur la planète. L'Afrique, évidemment, c'est elle qui croît le plus, 1 milliard 2 et beaucoup, beaucoup plus donc en 2050. En 2100, le vieillissement évidemment de la population mondiale, la baisse de la fécondité un peu partout dans le monde, même si elle reste très élevée en Afrique, et puis l'Europe dont on va parler ce matin avec Gérard-François Dumont, professeur à la Sorbonne, directeur de la revue Population et Avenir, géographe, économiste, en l'occurrence démographe. Alors évidemment l'Europe c'est une situation critique en matière de fécondité, mais c'est là depuis de nombreuses décennies, ce qui a des conséquences familiales, sociales et économiques. La conscience de ce risque majeur n'est pas non plus très développée dans le grand public, et pourtant, en vérité d'évidence, le présent d'aujourd'hui conditionne fortement la réalité de demain. Gérard-François Dumont.
L'Europe est dans une situation tout à fait particulière par rapport aux autres continents, puisqu'elle compte depuis 2015 plus de décès que de naissances chaque année. Donc en réalité, sa population diminuerait s'il n'y avait pas des apports migratoires. Et donc nous sommes dans ce qu'on appelle une situation d'hiver démographique, parce que la fécondité n'est pas suffisante pour assurer le simple remplacement des générations.
Alors il y a une chose très intéressante, et je m'appuie évidemment sur les travaux de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Je précise d'ailleurs, vous êtes le président de la revue Population et Avenir. Il y a une chose intéressante, c'est de voir quand même le gradient, de, par exemple, de la fécondité d'un pays à l'autre, à la fois dans l'Union Européenne et dans les pays européens qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Et encore une fois, Dieu merci d'ailleurs, la France est dans une situation relativement favorable, mais il n'y a que très peu de pays qui le soient en Europe. Donc c'est l'importance de la fécondité très basse, enfin relativement haute, et la moyenne de la fécondité qui est assassine, en revanche, pour l'ensemble de l'Union européenne.
Oui, alors effectivement, dans cette situation d'hiver démographique, les écarts de fécondité sont néanmoins assez importants, puisque par exemple, la fécondité de la France est 25% supérieure à la moyenne européenne. Donc nous avons bien, d'une part, des pays d'Europe occidentale, sauf l'Allemagne, plus les pays d'Europe septentrionale, dont la fécondité est la plus élevée, et en revanche, des fécondités extrêmement affaiblies, d'une part en Europe méridionale, donc Espagne, Portugal, Italie, Grèce, ainsi qu'en Europe orientale. Et ces différences importantes de fécondité, il faut essayer de les comprendre, et il y a différents éléments explicatifs. Le premier relève tout simplement de la politique familiale, c'est-à-dire que l'on voit que dans les pays où il n'y a pratiquement pas de politique familiale, la fécondité est beaucoup plus basse que dans ceux qui ont déployé une politique familiale permettant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Le deuxième élément explicatif tient à l'accueil de l'enfant. C'est-à-dire que nous avons des pays où l'enfant est accueilli, que les parents soient mariés ou non mariés. Et ceci est un élément favorable à la fécondité. Alors que dans les pays d'Europe méridionale, où l'on considère que l'enfant ne doit naître qu'au sein d'un couple marié, la fécondité est beaucoup plus basse. Enfin, il faut tenir compte de l'importance de la présence d'immigrés. Donc il est clair que dans les pays où l'immigration est la plus importante, ce qui est le cas en Europe occidentale et en Europe septentrionale, eh bien l'immigration joue en faveur de la fécondité, tout simplement parce que les immigrants ont une composition par âge relativement jeune. Alors qu'en Europe orientale, il y a beaucoup moins d'immigration, ou du moins des immigrants comme en Pologne, qui viennent d'Ukraine ou de Russie, c'est-à-dire deux pays qui ont une fécondité extrêmement affaiblie.
Alors, fécondité très bas, j'ai vu qu'il y avait, c'est une sorte de record mondial, le Portugal qui a 1,2 enfants par femme en âge de procréer, l'indice synthétique de fécondité. Et le Portugal le partage d'ailleurs ce record évidemment tout à fait grave avec la Corée du Sud, Taïwan, etc. Mais 1,2, c'est-à-dire qu'on peut... Ce genre de pays, au fond, c'est une sorte de suicide, entre guillemets, évidemment, démographique.
Bien, c'est simple, 1,2 enfants par femme, toutes choses égales par ailleurs, cela veut dire que 100 Portugaises de 2007, à la génération suivante, c'est-à-dire 30 ans plus tard, seront remplacées seulement par 55 femmes. Donc vous voyez la baisse de population que cela signifie, et bien entendu, si dans 30 ans il n'y a que 55 femmes, même si ces femmes ont une fécondité élevée, ça fait une natalité relativement basse. Donc on est effectivement dans une spirale d'implosion démographique lorsqu'on a des chiffres de fécondité aussi bas, sachant que la démographie, ce n'est pas comme l'économie. C'est-à-dire que la fécondité d'une année donnée imprime la pyramide des âges pour au moins un siècle, et donc ce n'est pas rattrapable. C'est pas comme en économie, vous avez une mauvaise année de croissance économique, vous pouvez avoir une bonne année l'année suivante. Là, c'est marqué pour l'avenir.
Alors, c'est tout cela évidemment pour l'Europe, et c'est important pour dégager des tendances, cela a des conséquences économiques, parce que, évidemment, l'état de démographique de tel pays dicte d'une certaine façon, ou laisse prévoir ces difficultés économiques ou ces réussites économiques pour les générations suivantes. Ça n'est pas neutre.
Ce n'est pas neutre tout simplement parce que la richesse dans un pays et la possibilité de création de richesse est liée à l'importance de la population active. Donc des pays dont la population active diminue, ce qui est le cas d'un certain nombre de pays européens, vont nécessairement avoir des créations de richesse qui sont moindres, sauf évidemment à faire appel à une immigration de remplacement. Et donc on sait bien que dans la décision de Madame Merkel d'ouvrir sa porte aux immigrés pouvant présenter un passeport syrien, il y a eu clairement la demande des entreprises allemandes de trouver de la main-d'œuvre, puisqu'il n'y a pas eu suffisamment de bébés allemands pour fournir la main-d'œuvre aux entreprises allemandes. Mais en même temps, cela pose des problèmes d'intégration, et c'est l'une des raisons des difficultés au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays, notamment en Europe de l'Est, qui considèrent que les problèmes d'intégration sont très forts, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas adhéré au projet de répartition des immigrés qui a été demandé par la Commission européenne.
Juste d'un mot comme conclusion, parce que le temps passe vite, Gérard-François Dumont, je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne, notamment spécialiste des questions démographiques. Juste d'un mot, est-ce que vous sentez, disons, auprès des jeunes générations, un plus grand intérêt pour la chose démographique ou non ?
Bien, aujourd'hui, disons que la question démographique... Elle a été extrêmement peu évoquée lors de toutes les campagnes électorales. Et la meilleure preuve, c'est que la situation de la France, qui était relativement bonne en Europe, s'est dégradée ces dernières années parce qu'on a commencé de raboter la politique familiale. Or, on ne voit pas dans les programmes politiques le souci de remettre en place la politique familiale telle qu'elle existait il y a encore quelques années. Donc on est effectivement dans un paradoxe, c'est-à-dire que quand vous parlez des jeunes générations, quand les enquêtes qualitatives montrent qu'elles souhaitent créer des familles et avoir un nombre d'enfants significatif. Mais en même temps, nous avons des politiques qui ne permettent pas aux familles de réaliser leur désir d'enfant.
Gérard-François Dumont, professeur à la Sorbonne, Paris 4, directeur de la revue Population et Avenir, et donc franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger.